Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est un sujet tabou qu'évoquent difficilement les différents gouvernements européens et un sujet de plus sur lequel les 27 n'arrivent pas à adopter de position commune. La question du retour des familles de djihadistes engagées auprès de Daesh en Syrie continue à se poser avec de plus en plus d'urgence. Si l'on parle des ressortissants français, ils forment le premier des contingents de l'UE sur place. 120 femmes et plus de 200 enfants vivent enfermés dans les camps d'Al-Hol et de Roj, sous contrôle kurde en Syrie. La France, qui a rapatrié certains orphelins, applique des décisions au cas par cas. En clair, pas de rapatriement global. L'opinion publique n'y serait peut-être pas favorable, mais les familles des prisonniers et certains avocats se battent pour le rapatriement de ces femmes et de ces enfants. C'est le reportage de Juliette Rangeval.
Dans le petit appartement, le lave-linge tourne, le café et des gâteaux ont été posés sur la table basse du salon. La femme qui nous accueille est très mince, les yeux cernés. Elle vient de terminer son travail de nuit. Elle est infirmière à l'hôpital. Ses enfants ne sont pas encore rentrés de l'école. Elle est la sœur d'une de ces femmes djihadistes que l'Europe ne veut pas voir revenir. Elle se souvient d'une sœur sage, coquette et drôle, pas encore mariée quand tout le monde dans la famille était casé, tombée amoureuse sur les réseaux sociaux d'un garçon plus jeune qu'elle, d'un mariage en secret. Elle se souvient d'avoir prévenu la police judiciaire en apprenant le départ du couple pour la Syrie, découvrant trop tard la radicalisation, le système dans lequel sa sœur s'était enfermée jusqu'à la fin de l'État islamique.
Un peu comme toutes les familles d'ailleurs, on va dire que la première année, on avait régulièrement des nouvelles. Ensuite, quand les reprises des villes de Raqqa ou de Mossoul ont été engagées par la coalition, là, on a commencé à avoir de moins en moins de nouvelles jusqu'à ne pas en avoir pendant plusieurs mois. Où là, on a pensé qu'elle était décédée. Et puis un jour, elle nous recontacte. Et en fait, c'était vers fin 2018, où là, elle décrit le chaos, quoi. Les bombardements incessants qui sont de plus en plus proches, de plus en plus de morts, la faim, pour ne pas dire la famine. Et puis, aux infos, on nous parle d'un plan de rapatriement. Moi, je suis super contente. Donc, je la contacte en l'informant de tout ça, en lui disant que j'ai pris une avocate, que la France va rapatrier. Donc, il faut absolument qu'elle aille se rendre aux Kurdes. Ce qu'elle finit par faire. Sauf que, depuis, elle attend toujours son rapatriement. Elle a conscience que c'est la plus grosse erreur qu'elle ait faite de sa vie. Elle dit qu'en fait, c'était une grosse arnaque, quoi, tout ça. C'était un gros leurre, qu'elle a été complètement bernée. Et aujourd'hui, ce qu'elle voudrait surtout, c'est même pas elle, parce que elle, de toute façon, elle sait qu'elle va passer par la casse-prison pendant plusieurs années. Mais ce qu'elle voudrait surtout, c'est sortir son fils de là, quoi.
Son neveu fait partie des quelques 200 enfants qui croupissent toujours dans les camps syriens. L'avocate Marie Dosé représente plusieurs familles et proches de ces femmes parties au nom de Daesh dans la zone irako-syrienne. Pour des raisons sécuritaires et humanitaires, elle explique que la France doit rapatrier ces femmes.
Parce qu'elles veulent payer pour ce qu'elles ont fait, elles veulent sauver leur enfant, elles veulent reconstruire ce qu'elles ont perdu, ou en tout cas purger la peine qui leur sera administrée et avoir un avenir en France. Mais d'autres, les plus radicalisées, les plus dangereuses, attendent tranquillement de pouvoir s'évader pour rejoindre Daesh, rejoindre Al-Qaïda et fomenter les attentats de demain. Donc les plus grands spécialistes disent on fait n'importe quoi. Ça c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan humanitaire, véritablement au XXIe siècle, la France, mon pays, notre pays, va laisser périr, va abandonner 200 enfants dont les deux tiers ont moins de 6 ans, 6 classes d'école, 7 classes d'école. On n'est pas capable en France, on n'a plus assez d'humanité pour se dire « mais ces enfants français n'ont rien à faire dans des camps en zone de guerre ».
Sur son téléphone, Marie Dosé accumule les photos d'enfants, les messages, comme celui-ci laissé par l'une de ces femmes djihadistes sur le téléphone de son père, puis transmis à l'avocate.
« Coucou papa, c'est moi. Moi, j'espère que tu vas bien. Merci pour tes messages, ça me touche beaucoup. » Écoute, hier j'ai envoyé les enfants. Voilà, donc ils sont partis hier. Ça me déchire le cœur, je te jure. C'est pour leur avenir, leur éducation. Je trouve ça fou de faire ça. Je fais ça pour eux, mais je trouve ça un peu dégueulasse qu'on soit obligé de faire des trucs comme ça. Mais bon, c'est de notre faute, j'ai déjà gâché leur vie, donc je veux pas continuer. J'espère que ça va aller pour tout le monde. Et sinon, il faudrait que tu contactes l'aide sociale à l'enfance. Voilà, essaye de faire ce que tu peux. Tiens-moi au courant si t'as des nouvelles. Voilà. Que je t'impose de rien si tu veux juste aller les voir ou... Je sais qu'ils vont être placés en famille d'accueil déjà. Et je t'impose pas de les prendre avec toi. Je sais pas ce que tu veux faire. Tu fais comme tu peux. Comme tu peux. Comme tu veux. Voilà, papa. Bisous, je t'aime fort. Je t'aime. Bisous.
La France annonce rapatrier au cas par cas des enfants, des mineurs isolés, des orphelins, 35 jusqu'à présent, ou ceux que les mères acceptent de laisser partir sans elles. Des situations dramatiques. Mais pour l'opinion, ces femmes djihadistes méritent ce qui leur arrive. Elles ont choisi de partir rejoindre Daesh. La France était l'ennemi. Pour Maître Marie Dauzé, l'État ne doit pas être animé d'un esprit de vengeance.
Il faut d'abord faire gagner l'État de droit contre Daesh. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette idéologie, on ne la combattra qu'avec nos armes. Nos armes, c'est l'état de droit et rien d'autre. En les laissant là-bas, d'abord, on participe à la reconstruction des cellules qui ont commis les attentats en France, et puis de surcroît, on abandonne l'état de droit au nom d'une opinion publique qui, pardon, mais doit être aussi mieux renseignée sur ce sujet. Doit écouter autre chose que l'émotion.
Pour l'avocate, pour les familles, il ne faut pas seulement penser à ces fantômes du djihad, mais aussi à l'avenir. Assise dans son salon, la sœur de la djihadiste dit son angoisse.
Même quand vous laissez partir vos enfants, en fait, il faut savoir que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles d'eux, mais eux n'ont plus de nouvelles de vous aussi. Enfin, qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de cet enfant? Il se dit quoi? Elle est morte? Elle est vivante? Est-ce que c'est normal que moi je m'amuse, je rigole, alors qu'elle, elle est dans la tente en train de pourrir? Enfin... Parce que si vous faites une grosse croix sur la maman, mais qui va lui raconter son histoire en fait? Et en grandissant, l'enfant il va peut-être la chercher là où il ne faut pas aller la chercher. Bien sûr, moi je vais tout faire pour récupérer mon neveu, les démarches, ça y est, j'ai déjà organisé ma vie en fonction de ça. Mais c'est vrai que ça me fait peur en fait qu'il rentre sans sa mère, parce que je me dis qu'à l'adolescence, qu'est-ce qui va se passer quoi, quand il va commencer à comprendre, quand il va commencer à poser des questions sur sa mère. Alors bon, déjà son père il est décédé, et elle expliquait à un enfant, ton père il est décédé dans les bombardements par la coalition internationale, ta mère qui a demandé à être rapatriée, qui a presque supplié la France pour qu'on la rapatrie avec toi, la France n'a pas voulu, donc elle a laissé pourrir là-bas, on sait pas ce qu'elle est devenue, on sait pas si elle est vivante, si elle est morte, et puis toi, franchement ça me terrifie moi un peu.
Son neveu a 5 ans. Il n'a connu pendant la plus grande partie de sa vie que les barbelés et la boue du camp.
Et petit à petit, en Europe, des brèches apparaissent. La Belgique a ainsi annoncé qu'elle allait rapatrier sur son sol tous les enfants de moins de 12 ans. Elle suit en cela la Finlande, qui a déjà rapatrié une vingtaine d'enfants et 6 femmes. Presque autant attendent toujours dans les camps syriens. Bonjour Anne-Françoise Hiver, vous êtes notre correspondante en Scandinavie.
Bonjour.
Le gouvernement social-démocrate finlandais a donc décidé que les droits fondamentaux des enfants devaient primer sur toute autre considération.
Oui, c'est bien cela. Et à Helsinki, on rappelle que ce n'est pas un choix, mais une obligation constitutionnelle. La Finlande est également tenue par les conventions internationales qu'elle a signées, dont celle des droits de l'enfant. Alors pour le moment, les mères suivent parce que la Finlande ne voit pas d'autre solution. Les séparer de force de leurs enfants n'est pas une option pour Helsinki. Cela ne veut pas dire que les risques que posent ces femmes pour la sécurité ne sont pas pris en compte, rappelle Jussi Tanner. Il est le diplomate mandataire mandatée par le gouvernement pour gérer les rapatriements, des décisions prises au cas par cas.
Jusqu'à présent, je n'ai pas été capable de trouver les preuves d'un risque pour la sécurité qui outrepasse les droits de l'enfant. Vous devez mettre tout sur la balance, car si vous pensez que quelqu'un présente un risque, ça veut dire que toute la famille, les enfants aussi, restent dans les camps. Donc il faut que ce soit un risque concret, bien documenté et bien établi.
La Finlande, par contre, met en garde contre un autre risque, celui de la radicalisation de ses enfants s'ils restent dans les camps.
Oui, c'est un gros sujet d'inquiétude car, comme Jussi Tanner le rappelle, les enfants devenus adultes pourront rentrer en Finlande sans que personne ne puisse les empêcher. Donc le choix est simple, soit ils reviennent maintenant de façon contrôlée, soit ils rentrent dans 10 ou 15 ans.
On peut se demander, est-ce que le risque est moindre dans ce cas de figure ? Est-ce que le risque est plus petit si les gens reviennent en Finlande sans éducation, sans que personne ne les ait pris en compte, sans aucune intervention de la société. Selon moi, la première option est bien meilleure pour la sécurité de la Finlande.
Et c'est d'ailleurs ce que semblent penser aussi les services de renseignement à Copenhague qui ont alerté le gouvernement sur la radicalisation potentielle des 19 enfants danois encore en Syrie.
Oui, car dans les pays nordiques, seule la Finlande accepte de rapatrier ses ressortissants.
Effectivement, Stockholm et Copenhague se refusent pour le moment à agir, une position qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. Au Danemark, la pression monte pour que le gouvernement aille au moins chercher les enfants. La Norvège, elle, a fait une exception en janvier 2020 dans le cas d'un enfant très malade rapatrié avec sa mère et son frère. Une décision qui a provoqué une crise gouvernementale puisque les populistes ont quitté la coalition au pouvoir, forçant la première ministre Erna Solberg à nommer un nouveau gouvernement.
Merci beaucoup Anne-Françoise Hiver en Scandinavie. À très bientôt. Et au Royaume-Uni, une jeune femme symbolise les divisions de l'opinion publique et du gouvernement face à la question du rapatriement. Elle s'appelle Shamima Begum, jeune Britannique de 21 ans, d'origine bangladaise. Elle a suivi en Syrie son mari djihadiste, qui est aujourd'hui en prison. Elle a été déchue de sa nationalité britannique. Après avoir perdu ses 3 enfants, elle a demandé une deuxième fois à la justice britannique le droit de revenir au Royaume-Uni. Mais la Cour suprême a refusé sa demande, Marie Billon.
Le Royaume-Uni est l'un des pays les moins prompts à pardonner une offense. Une étude effectuée en début d'année auprès de 6 pays occidentaux et la Chine montre que 42% des Britanniques ne donnent pas de seconde chance à une personne ou une entreprise qui trahit sa confiance. Or, c'est justement une seconde chance que Shamima Begum demandait. Elle voulait que ses anciens compatriotes oublient tout ce qu'ils avaient entendu sur elle dans les médias. Mais la Cour suprême en a décidé autrement et la presse, tout comme l'opinion publique, semble divisée sur cette décision. Sans surprise, le journal de droite, le Daily Telegraph, trouve ce jugement intraitable très sain. Cela nous empêche d'être trop sentimentaux et la responsabilité individuelle est au cœur des valeurs d'une nation libre. Son mélange narquois d'extrémisme islamiste, l'impression que tout lui est dû et permis et sa posture féministe cosmopolite, tout cela est un anathème pour les Britanniques, écrit l'éditorialiste. En face, une journaliste du Guardian, de gauche, estime que le pays se tire une balle dans le pied en refusant à Shamima Begum d'être jugée au Royaume-Uni. Il est d'intérêt public de comprendre comment une écolière a pu être radicalisée au point de quitter son pays. Le Royaume-Uni ne prend pas le temps de se demander si la jeune femme, qui dit ne pas avoir été gênée à la vue de têtes décapitées, est une témoin traumatisée ou bien une actrice de la terreur islamiste. Le sculpteur britannique d'origine indienne Anish Kapoor, lui, va plus loin et lance la polémique. S'il s'agissait d'une jeune fille blanche provenant de la région cossu du Wiltshire, écrit-il dans une tribune, cela ne fait aucun doute, nous demanderions qu'elle soit rapatriée sans tarder en Angleterre, chez elle. Car Shamima Begum a été déchue de sa nationalité britannique, Londres déclarant qu'elle n'est pas apatride puisqu'elle pourrait avoir droit à la nationalité bangladaise, ses parents étant d'origine du Bangladesh. Mais cela pose une question plus large, selon le Guardian, celle de la cohésion de la société britannique. Les politiques qui traitent différemment les Britanniques qui ont des liens avec d'autres pays sont à la fois injustes et discriminante, dit le quotidien, puisque les minorités ethniques ont plus de chances d'être déportées et de se voir retirer leur passeport.
autrefois, il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
Et comme tous les lundis, depuis quelques mois, on termine en musique avec la chronique voyage de Vincent Théval. Et Vincent, vous nous emmenez cette fois en Italie avec Paolo Conte.
Et je vous propose de nous rendre à Gênes, au nord-ouest de l'Italie, célèbre pour ses activités portuaires, mais aussi pour l'entrelac dense des rues du centre médiéval, les palais de la rue Garibaldi ou la cathédrale San Lorenzo à la façade striée de gris et de blanc. Enfin, ce n'est pas tout à fait ce point de vue touristique que choisit Paolo Conte dans sa chanson « Genova per noi » en 1975. Le regard est celui d'un provincial, un piémontais, venu de la campagne, avec en tête des rêves de soleil et de vacances à la plage, à la fois émerveillé et intimidé par la présence de la mer sombre et toujours en mouvement, et par ce qui flotte ici, la brume, le poisson, l'Afrique, le sommeil, la nausée et la fantaisie, avant de se découvrir quelque affinité de caractère avec les Génois.
Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, boschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
Genova per noi de Paolo Conte. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.